et associative. Culture et société. Politique. Et même du sport. Du lundi au jeudi, le pédalo, la quasi-quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
Il est 18h, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à bord du pédalo. Dans l'émission de ce soir, on écoutera un reportage de Loane, bénévole à Radio Campus Angers, qui s'est rendu au festival Les Éclectiques et qui a donné la parole aux bénévoles sans qui le festival n'existerait pas. On parlera ensuite de la fête de l'UMA 49 avec Christine Rondepierre et Hugo. Elle se déroulera ce samedi 10 juin dans la salle Louis Aragon à Trélazé de 11h à minuit. Au programme de cette journée, des conférences, des débats et des concerts. Attachez vos ceintures, le pédalo prend l'eau. Le pédalo sur Radio Campus Angers. Le festival des Éclectiques va bientôt rouvrir ses portes au château de Gonore, à Valenjou, le 9 et 10 juin, et Loane avait envie de s'attarder un peu sur les bénévoles, sans qui ce genre d'événement serait souvent compromis. On va donc pouvoir les entendre, savoir qui ils sont, en dehors des EC, et ce que ça leur apporte.
Personnellement, je le suis depuis 2 ans, et je trouvais ça intéressant de mettre en avant les derrière du festival, mais aussi et surtout les personnes que vous, en tant que festivalier, vous rencontrez le plus souvent derrière un bar. Être bénévole, pour ma part, ça commence souvent par la timidité. La rencontre de nouvelles personnes, la coordination d'une nouvelle équipe. À la fin, c'est souvent devenu des belles rencontres, des nouveaux copains de festival, comme j'aime les appeler. Une équipe de bénévoles aux EC, c'est plein de profils différents, mais bien sûr, on a tous un attrait pour la musique.
Je suis en année de remise à niveau scientifique, parcours sciences de l'ingénieur et audiovisuel. Et à l'avenir, j'aimerais bien devenir régisseur son dans les événements culturels, voire dans le spectacle vivant.
Je travaille dans une salle de concert. Je suis chargée de communication dans la culture, donc je sors d'études, mais je reste dans ce milieu-là et dans la musique.
En dehors des éclectiques, je suis étudiant en horticulture dans une école d'ingénieurs en horticulture à Angers.
J'essaie de faire beaucoup de choses. Je travaille à la piscine pour me faire des sous. Mais sinon, à côté de ça, j'ai une boîte de production qui s'appelle Le Box Prod. J'ai aussi un média qui est là pour le festival qui s'appelle Y. Et on va faire de la vidéo pour le festival, des interviews. En vrai, juste travailler dans la musique, quoi, c'est incroyable.
Être bénévole, c'est riche. Ça permet de construire un réseau, de mettre un premier pas dans ce milieu quand notre but est d'y travailler, par exemple.
C'est vraiment super. Ça permet d'échanger vraiment avec des gens qui sont de tout âge, qui viennent de partout, de toute formation. Et ouais, c'est très riche humainement. Et puis ça permet de s'enrichir aussi au niveau de l'organisation, savoir comment ça se passe un festival, voir un peu les backstage, donc c'est hyper cool.
Au tout début, moi je venais juste en tant que festivalier et je me suis rendu compte que j'avais grave envie de voir un peu comment ça se passait derrière. Je suis venu et ça m'a apporté déjà plein de contacts. Je parlais avec des gens qui me parlent de leur vie, qui me parlent de ce qu'ils font, genre c'est hyper intéressant. Ensuite, il y a aussi de découvrir un peu un milieu où il y a tellement d'informations, tellement de manières de procéder, c'est hyper intéressant.
Être bénévole, certains pourront penser que c'est une perte de temps, que faire du travail gratuit, c'est inutile. Et pourtant, on peut le voir d'un autre œil. Le bénévolat, c'est une formation gratuite. En tant que jeune, c'est mettre un pas dans la professionnalisation. C'est ajouter de nouvelles compétences dans son CV. Le milieu de la musique et des festivals, on le sait, c'est un milieu plutôt fermé. Il est difficile d'y entrer et y être bénévole facilite les choses quand on sait que ça constitue un réseau. Finalement, c'est même plutôt intelligent d'allier l'utile à l'agréable. J'ai adoré emprunter le micro de Radio Campus pour parler des bénévoles ce soir et j'avais envie de vous laisser avec la douce voix de November Ultra, une artiste que j'avais adoré écouter pendant l'édition printemps des Éclectiques.
Could it be an ending, my best goodbye, one last
Merci Loane pour ce reportage et merci aux bénévoles des EGG d'avoir répondu avec enthousiasme. On vient d'écouter November Ultra sur les ondes de Radio Campus Angers. November Ultra qui était à l'affiche de l'édition Printemps des EGG et qui nous a offert une performance à la Collégiale Saint-Martin le jeudi 20 avril. Ce samedi 10 juin à la salle Aragon à Trélazé aura lieu la fête de l'UMA 49. Avec nous pour en parler, Christine Rondepierre. Hugo, bonsoir, c'est toi qui vas mener cette interview, je te laisse la main.
Ouais, merci. Ça va ta première animation, on s'en sort
Oui, ça va.
Oui, ça va. Ça on va. A oublié une petite virgule, je propose qu'on se la mette quand même, parce qu'on l'a oublié la petite virgule. Et ouais, on est toujours dans le pédalo sur les ondes de Radio Campus Angers. Christine Rondepierre, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes membre de la Société des lecteurs et des lectrices de l'humanité. D'ailleurs, on dit lecteur et lectrice, lecteur.
Lectrice et lecteur.
Lectrice et lecteur. Lecteurice peut-être. Je dirais lectrice.
Voilà.
L'Humanité, c'est un journal qu'on appelle communément l'UMA, d'ailleurs je vais l'appeler comme ça pendant cette interview, journal créé en 1904 par M. Jean Jaurès. Ce journal, c'est à la base un journal de la section française de l'Internationale ouvrière. En 1920, le journal devient communiste après le congrès de Tours et il devient même l'organe officiel du Parti communiste jusqu'en 1999. Aujourd'hui, est-ce que c'est encore le journal du Parti communiste français?
L'Humanité, c'est vraiment toujours dans la tradition de Jaurès. C'est le journal qui donne la voix à tous ceux qui luttent, quelle que soit la forme de leur lutte et de leur résistance, dans le monde comme en France. C'est le journal qui donne aussi ses colonnes à tous ceux qui ont quelque chose à dire contre la marche de ce monde. Il y a une particularité, comme en 1904. C'est-à-dire qu'on a un système capitaliste qui ravage la planète, qui use les hommes, et il faut qu'on se rassemble, comme le souhaitait Jaurès, dans toutes nos différences pour qu'on aille vers d'autres possibles, vers l'émancipation au profit de l'être humain et de la nature.
Est-ce que c'est quand même... Donc je repose la question, est-ce que c'est le journal du Parti communiste français?
Il n'est plus l'organe central du Parti communiste, vous avez mentionné même la date. C'est le journal qui cherche à rassembler toutes les forces de gauche, progressistes, humanistes, qui, comme les communistes, veulent un autre monde et une autre société. Mmh. Communiste au sens vraiment très large. On cherche le bien commun.
Comment est-ce qu'on fait pour développer une ligne éditoriale libre et rigoureuse quand on a été pendant près de 90 ans un organe de communication du Parti communiste français ?
Ben, moi, j'ai envie de vous dire, regardez comment lisez le journal L'Humanité dans sa version quotidienne, dans sa version magazine hebdomadaire et dans son support numérique. Ils se sont rénovés, ils continuent à se rénover et vous y verrez que beaucoup de voix cherchent ce vecteur parce qu'il est singulier, parce qu'il est alternatif et ça leur donne la possibilité aussi de porter... Enfin, de donner de la force et de la voix à leur combat. Alors, si vous voulez, après, moi, je vous donne plein d'exemples de son contenu.
Moi, j'ai une question, parce que, évidemment, nous, en tant que journalistes, et d'autant plus que c'est la table ronde que vous allez, que vous allez proposer, on en parlera juste après, les médias sont-ils libres? En tant que journaliste, est-ce que si jamais un journaliste de l'Humanité trouve quelque chose sur le Parti communiste français, est-ce qu'il pourra le publier? Est-ce qu'il aura la liberté éditoriale de le faire?
Bien sûr, d'abord, les journalistes à l'Humanité ne sont pas tous communistes. Certains le sont, d'autres ne le sont pas. Et ce n'est pas un critère de recrutement. Et quand vous lisez le journal, vous avez même parfois les débats internes au Parti communiste, comme vous avez aussi, heureusement qu'il n'y a pas que les débats internes au Parti communiste, mais vous pouvez aussi y lire des choses sur d'autres débats qui traversent des forces politiques, comme des forces associatives, comme d'autres forces citoyennes.
En 1999, est-ce que vous étiez déjà lectrice de l'UMA ?
Ah là là, je suis lectrice de l'UMA depuis très très longtemps, parce que c'était le journal qui traînait sur la table dans notre maison.
Donc vous avez vu la transformation entre le moment où c'était l'organe de communication du Parti communiste et aujourd'hui. Est-ce que vous avez constaté un changement?
Mais surtout, c'est que je retrouve vraiment ce que voulait Jean Jaurès. Jean Jaurès a dit en 1904, quand il le crée ce journal, il dit voilà, est-ce qu'on peut créer un grand journal qui ne soit pas sous la coupe des grands milieux d'affaires. C'est difficile, mais pas insoluble. Bon, on est toujours dans cette problématique-là, c'est pour ça qu'on fait ce débat, et on y reviendra. On a aujourd'hui une grave crise démocratique et une des facettes de cette crise démocratique, c'est aussi cette concentration des médias dans la diversité de leurs supports et de leurs canaux entre les mains de milliardaires, d'actionnaires, de grands groupes qui, en fait, essayent de réécrire le récit du monde. Et s'ils veulent réécrire le récit du monde, c'est parce qu'ils veulent que le système capitaliste perdure à l'échelle planétaire. Et donc, du coup, il tue d'autres voies. Il bâillonne d'autres voies.
Est-ce que vous considérez que l'humanité est anticapitaliste, finalement ?
Profondément, oui. Ça, c'est, par contre, c'est son ADN.
C'est sa ligne éditoriale ?
Oui. Alors, j'ai envie de dire, aujourd'hui, on sait ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Ce qu'on sait un peu moins, on le sait dans l'humanité, c'est qu'hier, il y a eu l'adoption de la programmation de la loi militaire. Qui va faire qu'on va dépenser 413 milliards d'euros d'ici 2030, en gros, pour avoir des armes de plus en plus meurtrières, y compris de dissuasion nucléaire. Si je dis ça, c'est que ce soir, je voudrais dire...
On le sait dans l'humain, mais on le sait ailleurs. Hein, quand
on
même.
Le sait ailleurs, bien, bien évidemment. On ne le sait pas trop, d'ailleurs, dans les médias, y compris parfois publics. Mais surtout, moi, je voudrais dire bonsoir aux étudiants qui galèrent parce qu'il leur manque des places en fac, qu'il leur manque des places en CROUS.
Et c'est vrai, quand on regarde
le
budget...
Qui n'ont pas assez de bourses, ou même les chercheurs qui n'ont pas assez de bourses, quand on voit ce budget qui, lui, ne sert strictement à rien, à part, dans un conflit comme dans le contexte de la guerre en Ukraine, à part nous risquer de tous sauter, où là, les survivants environ le sort des morts.
En tout cas, vous avez une prise de position vraiment radicale.
Oui.
C'est-à-dire que si jamais on devait questionner cette neutralité journalistique qui normalement... Voilà.
Oui, alors, pas dans le sens de l'humanité. Vous allez retrouver, par exemple, là, on a diffusé à 46 000 exemplaires le hors-série spécial retraite. Et c'est pour ça que je vous parle de l'humanité de Jaurès. Comme pour le traité européen, comme pour aussi la loi travail, on a sorti un hors-série de plusieurs pages où les gens pouvaient lire l'intégralité du projet de réforme de la retraite, avec en plus des décryptages par des syndicalistes, par des forces politiques de gauche, des progressistes. On en a vendu 46 000 exemplaires. Pourquoi ? Parce qu'on disait aux gens, jugez sur pièce, on ne vous dit pas tout. Pourquoi il y a cette réforme de la retraite ? Et surtout... mélangez votre point de vue à ceux aussi qui ont envie, comme vous, de résister. Eh ben, vous voyez, ça a été quand même sacrément utile, comme ça a été utile pour le traité de coopération européenne.
Vous faites partie de la société des lectrices et des lecteurs de l'humanité. C'est quoi une société des lectrices et des lecteurs ? À quoi ça sert ?
Parce que l'humanité, alors c'est un des seuls journaux, il n'appartient à aucun oligarque, il n'est adossé à aucune banque. Et ses actionnaires, ce sont les lecteurs et les lectrices. Donc en fait, on est vraiment les seuls actionnaires dans le sens où on n'a pas de sous, mais dans le sens où, en fait, le journal vit de son lectorat, de sa vente. Comme tout journal indépendant, il n'y a quasiment pas de recettes publicitaires. Et effectivement, volontairement, il n'est adossé à aucune banque et il n'est pas payé ni par Bolloré ni par Arnault.
Mais par contre, il bénéficie quand même du soutien financier du Parti communiste.
Oui, quand vous savez quand même que le Parti communiste n'est pas un parti riche, puisqu'il il ne vit, lui, que de ce qu'apporte surtout la richesse militante. Mais je vais vous donner un deuxième exemple. Là, je vous parlais du rôle de l'humanité sur les retraites. Darmanin, il n'y a pas très longtemps, a attaqué la Ligue des droits de l'homme parce qu'ils avaient été observateurs à Sainte-Soline.
Tout à fait.
C'est l'humanité.
Sainte-Soline, là où il y a les conflits autour des bassines.
Là où il y a eu le conflit autour des bassines et où il y a eu des violences policières. La Ligue des droits de l'homme a dénoncé ces violences policières, comme nous le faisons régulièrement aussi dans les colonnes de l'humanité. Eh bien, là, il y a eu l'humanité a lancé un appel autour déjà de 1000 personnalités pour dire il faut soutenir la Ligue des droits de l'homme. On a interviewé notamment ces présidents actuels et honoraires. Maintenant, il y a eu plus de 10 000 personnes qui ont convergé vers cet appel pour dire « ne touche pas à la Ligue des droits de l'homme ». Et ça nous renvoyait à quoi ? Moi, j'ai parlé de Jaurès, mais ça nous renvoyait au moment où il fallait s'unir quand on combattait Dreyfus.
Je vous repose la question. À quoi ça sert une société d'électrices et d'électeurs ?
Alors ça sert comme là, moi je l'ai créé il y a un an à l'échelle du département. On est construit à l'échelle nationale, déjà à promouvoir le journal, à faire des abonnements. En ce moment, on fait des abonnements de moins 30% pour les jeunes, parce qu'on sait que les jeunes veulent lire les presses sous tous ces supports, hein, papier et autres, mais qui n'ont pas de sous. Qu'ils soient chômeurs, salariés, étudiants, ils n'ont pas généralement pas trop de sous pour s'abonner. Avec nos cotisations de 20 euros par an seulement, on a pris cet argent pour baisser de 30% l'abonnement, qui fait que, par exemple, pour un abonnement à l'humanité numérique, on paye pour le mois 6,90 euros seulement. Donc je peux vous dire que là, on fait des abonnements, du coup. Et l'humanité, la société d'électrices et d'électeurs, ça sert à faire des débats. Depuis un an, j'en ai déjà fait, là, ça va être le quatrième. J'en ai fait un déjà au début sur la concentration des médias, mais là, c'était tout le début de notre création. On en a fait un sur sortir du capitalisme. Est-ce qu'on peut le dépasser, ce système ? Et si on le dépasse tous ensemble, les forces progressistes de gauche, les forces humanistes, comment ? Vers quelle voie ? Et le 21 mars, la journée internationale pour l'abolition de toute discrimination raciale, on a fait un débat sur l'extrême droite avec Hugo Paletta, un grand sociologue spécialiste de l'extrême droite dans le monde et du fascisme, animé à chaque fois par un journaliste de l'humanité.
Est-ce que vous savez ce qui se passe ce samedi 1er juillet ? Non, n'importe quoi, ce 10 samedi 10 juin.
Ah, il se passe plein de choses, à part la fête, il y a aussi la fête de l'humanité.
Et il y a la fête de l'humanité quand même.
49, oui.
Voilà, de 10h à minuit, de 11h à minuit, plein d'événements à la fête de l'humanité 49. Alors la fête de l'humanité, qu'est-ce que c'est ? Dès 1930, on a vu apparaître la première fête de l'UMA, et depuis, c'est un, on va le dire, vrai succès. Depuis 2010, même en 2019, l'édition parisienne a attiré 450 000 visiteurs sur 3 jours, c'est ça ce qui fait de la fête de l'UMA un des plus gros festivals de France. Au programme de la fête de l'UMA, des concerts, des conférences, des tables rondes, des débats, même quelques bières chaudes et des merguez froides, parce que voilà, c'est les traditions de la CGT et de tout bon manifestant. Est-ce que c'est aussi ça qu'on retrouvera samedi prochain à Trélazé ?
Dans une plus petite dimension, bien entendu.
Mmh. Il y aura des merguez quand même.
Mais voilà,
yes.
Mais il n'y aura pas que des merguez frites. En clair, on fait en sorte que là, ça soit le lieu de toutes les résistances. Nous avons invité les forces de gauche, nous avons invité aussi l'association France-Palestine, le mouvement de la paix, et d'autres gens qui ont en ce moment envie de dire des choses, parce qu'ils portent des combats, comme nous tous, et c'est important qu'on leur donne cette caisse de résonance.
C'est l'occasion de faire converger plein d'associations qui partagent, oui, les valeurs portées par l'humanité.
Oui, bah, surtout des gens qui veulent faire l'humain d'abord, et la planète aussi, d'abord. Donc il y a plein de gens qui, en ce moment, mènent des luttes sociales, environnementales, internationalistes. On va parler aussi des conflits et comment on peut aussi faire en sorte qu'ils s'arrêtent et que les forces progressistes puissent vraiment aller plus loin dans leur combat.
Dans un article paru hier, aujourd'hui je crois, il est écrit aussi que c'est un peu la fête du Parti communiste ici dans le Maine-et-Loire. En tout cas que c'est un rassemblement de tous les communistes du Maine-et-Loire. Est-ce que c'est la fête de l'UMA ou bien est-ce que c'est la fête du Parti communiste français ?
C'est la fête de l'UMA organisé par les communistes du Maine-et-Loire. Mais quand ils l'organisent, donc c'est eux qui sont les piliers de sa gestion, de sa conception. Mais tout de suite, on invite des forces progressistes, humanistes, d'autres forces politiques de gauche.
Il y aura des membres de la NUPES ?
Oui, bien entendu.
Au programme, donc, table ronde, débat, concert, et parmi tout ça, à 14h30, une conférence autour de la liberté de la presse, qui s'intitule « Les médias sont-ils libres ?» Point d'interrogation. Pourquoi est-ce que pour vous, ça vous semblait important et nécessaire d'organiser ce débat ?
Parce qu'on parle beaucoup de crise démocratique en ce moment, hein, c'est moins qu'on puisse dire, sous toutes ses formes, crise sociale, crise institutionnelle, etc. Ce qui se passe dans les médias contribue à approfondir cette crise, puisque il y a des milliardaires qui, pourtant, ils ont beaucoup d'autres sources de profit. Ce n'est pas les médias en soi qui leur donnent beaucoup de profit, mais qui pensent que quand ils détiennent les médias et qu'ils ont le monopole sur tous les médias dans toutes leurs formes, ils peuvent imposer une pensée unique. Et ils ont toujours été soucieux de ça. Il n'y a pas très longtemps, dans les années 30, au moment où le Front populaire était en train de vraiment de se développer, il y en a d'autres qui ont dit plutôt Hitler que le Front populaire. Et à ce moment-là, il y en a quand même qui se sont dit, il y a quand même des journaux qu'il vaut mieux maîtriser. Mmh. Et à ce moment-là, Paul Vaillant-Couturier, qui était un des rédacteurs en chef de l'Humanité, a dit, on parle du trust des journaux et du journal des trusts. Vous voyez, déjà, c'est-à-dire que quand on veut imposer un récit du monde, imposer un mode d'exploitation, eh bien, il faut maîtriser le contenu des médias.
Mais vous voyez, en même temps, c'est-à-dire, je, personnellement, en tant que journaliste, je partage cette opinion. Ceci étant dit, j'ai l'impression que l'UMA et que la société des lecteurs et des lectrices de l'UMA que vous représentez se positionnent dans une sorte de contre-discours. Puisque les médias ne sont pas libres, nous allons faire le contrepoint et finalement sortir de notre neutralité journalistique pour aller proposer un contenu engagé et militant.
Non, on veut surtout, vous avez vu que ce débat-là, on ne le fait pas tout seul. C'est pas l'Humanité qui, on n'a pas invité que la journaliste de l'Humanité.
Tout à fait. Alors, il y aura nos partenaires d'Infoscope qui seront là, nos copains de la Topette, voilà. Un journaliste de Libération, évidemment l'Humanité, le Courrier de l'Ouest, une membre du SNJ CGT qui est également journaliste à France Télévisions. Même nous, on est invités, malheureusement, on ne pourra pas honorer l'invitation. Mais c'est vrai que, voilà, vous essayez d'ouvrir le débat à d'autres médias. Oui, ceci étant dit, ce sont des médias progressistes.
Tout simplement parce que ce qui se passe dans les médias, il y a des journalistes de l'intérieur qui ne sont pas très contents de voir leurs conditions d'exercice et leur gouvernance, avec un seul critère, quoi. C'est-à-dire que je suis le milliardaire, je possède Bolloré ou Arnaud ou d'autres, je possède ton journal, ta radio, ta télé, tu as la ligne éditoriale, c'est pas toi qui décides. Mmh. On a vu des conflits, il y a eu des conflits aux Parisiens. Il n'y a pas très longtemps encore, parce qu'ils avaient l'impression avec les Échos que parce qu'ils étaient possédés par exemple par Arnaud, il fallait qu'ils soient pro-gouvernementaux. Donc on le fait avec des tas de gens qui en 2019, Acrimed a lancé un grand appel en disant il faut qu'on se sorte de cette concentration des médias entre les mains de quelques oligarques. Et il faut surtout que les citoyens s'en mêlent. C'est-à-dire que quand vous les interviewez, dans l'UMA, on a fait tout un feuilleton là-dessus. Comment on peut s'en sortir de cette crise médiatique ? Il y a des mesures législatives, il y a des mesures juridiques, il y a des mesures sociales. Mais il faut que les citoyens s'en mêlent. Il faut qu'eux aussi ils disent, c'est pas possible qu'on nous raccourcisse autant le pluralisme d'opinion, le pluralisme des idées. Si quand j'ouvre la télé, la radio, l'Internet, j'ai l'impression que j'entends toujours le même son de cloche, j'ai un problème. Donc voilà, c'est pour ça qu'on fait ce débat, parce qu'on pense qu'il y a urgence démocratique.
D'ailleurs, chers auditeurs, auditrices, on vous invite à aller consulter la carte faite par le monde diplomatique qui synthétise très bien tout ce que Christine Rondepierre est en train de dire et qui synthétise sur une sorte de carte mentale la concentration de 80% des médias français dans la main d'une poignée, effectivement, de personnalités plus riches que nous, de toute évidence. merci beaucoup Christine Rondepierre d'avoir accepté notre invitation. Merci également de nous avoir invités à Radio Campus Angers à participer à cette table ronde à laquelle nous aurions aimé être là avec plaisir. Mais on vous encourage, chers auditeurs, auditrices, à aller faire un tour à la fête de l'UMA 49, même si vous n'êtes pas d'accord. C'est l'occasion de débattre et d'échanger avec des personnes et peut-être d'ouvrir les yeux des personnes qui y seront, mais peut-être également les vôtres. Voilà, c'est un lieu d'échange et de débat, on l'aura bien compris, où la libre expression aura toute sa place. Merci beaucoup Christine Rondepierre d'avoir répondu à notre invitation sur les ondes du 103 FM.
Merci à vous.
Le Pédalo termine sa traversée sur les ondes de Radio Campus Angers. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis à la technique, c'était Carla. Merci Hugo pour ton interview. Nous, on se retrouve demain pour un nouveau tour de bateau. Et d'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
C'est pour tout le monde.
Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.